vivre ou raconter, Philippe Sellers? Vous voulez pas choisir?
Absolument pas. Je trouve d'ailleurs que c'est une formule extrêmement négative qui s'inscrit dans une propagande qui date de Flaubert, n'est-ce pas? Il faut choisir entre vivre et écrire. Donc, si vous écrivez, vous devez vivre reclus, souffrir une sorte de martyr, vous tenir à l'écart de tout. Et à ce moment-là, vous aurez l'hommage posthume de la société. Ou alors, si vous vivez, évidemment, il va de soi que vous ne pouvez rien écrire. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le monde de la séparation, c'est le monde de la contradiction qui a été... À la limite, c'est de la propagande, tout simplement.
Ça vous déplaît? Quel besoin d'écrire vos mémoires?
Eh bien, c'est un besoin qui, à mon avis, est tout à fait naturel lorsqu'on se demande, ce que tout le monde d'ailleurs devrait faire, si on a vécu comme on a eu raison ou pas de vivre. Je crois qu'il y a un moment où il faut se le demander, hein, tant qu'on est dans la course.
Il faut vraiment se le demander, est-ce qu'on a raison de vivre? Il faut se justifier d'exister?
Ah oui, je crois, non. Vous ne trouvez pas?
Bah, je vous retourne la question,
Moi, je vous la retourne et je crois qu'elle s'adresse à tous les auditeurs, c'est-à-dire à savoir qu'il y a... Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir vécu avec tous les obstacles, enfin, quand on pense à tout ce qui s'oppose à la vie dans le monde où nous vivons, est-ce que quand même vous avez réussi à trouver cet espace intérieur, d'ailleurs privé, peut-être métaphysique après tout, non, employons ces mots-là, ou quand même vous avez eu l'impression de dire oui ou pas à votre vie? La plupart du temps, on dit non.
Et la réponse que vous donnez, c'est oui, oui, et en lettres majuscules.
Voilà, c'est ça.
Résolument.
Parce que justement, je vis dans un monde où j'ai l'impression que tout le monde dit non, non et non. Et ben moi, j'ai envie de dire oui.
Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Raconter votre vie, pas vraiment. Raconter votre époque à travers vous. Régler des comptes aussi, c'est un genre, la mémoire qui s'y prête.
Tout ça. Je crois que j'ai une vie un peu singulière, et d'ailleurs une vie intéressante mais aussi dans l'histoire, c'est-à-dire je ne tombe pas du ciel. J'ai vécu dans des conditions historiques précises, dans une famille précise, qui avait des goûts précis, ce qui en France me fait un tout petit peu à part. C'est-à-dire c'est à Bordeaux, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une famille anglophile, ce qui déjà est très important pour moi. D'ailleurs je cherche souvent à la bougie des gens qui auraient eu cette inclination familiale à écouter la vérité venant de Londres, lorsque nous étions à Vichy avec les Allemands en France, ici Londres, les Français parlent au français, les messages cryptés, etc. Deuxième choc historique, c'est la guerre d'Espagne, c'est-à-dire quelque chose qui revient vers Bordeaux, et là, mes premières amours en espagnol, je suis assez bon en espagnol pour cette raison même, je ne peux pas m'étendre beaucoup sur la question. Ensuite, c'est quand même, je suis d'une génération qui a connu la guerre d'Algérie, dont on ne me parle jamais d'ailleurs dans les articles que je vois sortir sur mon livre, ce qui est
très peu, jamais.
Ce qui est extraordinaire, ce qui prouve bien qu'il y a un placard là. Vous connaissez ma théorie des trois placards? Non, je vous l'ai dit très vite, il y a trois placards dans l'histoire de France, c'est-à-dire le placard Vichy, n'est-ce pas, 40-42, qui passe mal, qui n'est toujours pas tout à fait déglutit, n'est-ce pas? Il y a aussi, à ce moment-là, la guerre d'Algérie, on n'avait pas le droit de dire guerre, il fallait dire maintien de l'ordre, etc. La plupart de mes amis ont été esquintés ou morts dans cette affaire. J'ai fait 3 mois d'hôpitaux militaires, je raconte ça dans mon livre, comment se faire réformer lorsque c'est quasiment impossible, et que les blessés reviennent en masse. C'est un épisode de l'histoire de France qui est soigneusement occulté, qui ressort de temps en temps, comme ça, quand il y a d'anciens tortureurs qui ressortent des placards, et les cadavres dans les placards, des placards dans les cadavres, etc. Après ça, il y a quand même un épisode énorme dans l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, j'avance. C'est quand même ce qui s'est passé autour de mai 68. Vous savez, oulala, encore ce spectre.
La belle aventure.
Ce spectre, la belle aventure pour moi, mais pas pour tout le monde. Le récent.
Qu'on en liquide l'héritage, Philippe Sellers.
J'ai entendu ça avec un frisson de peur, n'est-ce pas, quand j'ai entendu un président de la République, dans un grand stade rempli d'aficionados, dire qu'il fallait liquider, oh là là, un mot terriblement stalinien, n'est-ce pas, c'est-à-dire où l'on procède à la liquidation. Alors là-dessus, on pourrait y rester longtemps. Et puis, dans tout ça, quoi, c'est-à-dire une vocation... Si on peut employer ce mot, oui, pourquoi pas, vocation d'écrivain, parce que pendant ce temps-là, j'ai écrit quand même beaucoup de choses, et je me suis donné les possibilités de rester libre pour pouvoir écrire ce que je voulais écrire. Alors l'essentiel, c'est quand même ça, c'est les livres.
Évidemment, c'est ce qui vous accompagne, c'est ce qui vous structure, les livres que vous avez écrits, les livres qui vous ont accompagné,
la
ceux que vous avez aimés. Voilà, une bibliothèque intérieure qu'on retrouve, partons de la naissance, ou plutôt des naissances. La façon dont on est biologiquement, mais aussi en littérature, mais aussi en politique, sont quelques-unes des étapes qu'on trouve dans ces mémoires Philippe Sellers. Il y a d'abord la question du nom. Alors, je dois l'avouer, par exemple, j'ai découvert que Sellers, c'était un pseudo. Mmh. C'est un pseudo que vous avez forgé du latin. un petit mot, puisque vous dites que se donner son propre nom n'est pas une mince affaire.
Et oui, parce que, regardez les choses. D'abord, je suis obligé de prendre un pseudonyme parce que mon premier livre paraît alors que je suis encore mineur. C'est une curieuse solitude qui a eu un certain retentissement. Il y a eu des articles de Mauriac, d'Aragon, etc. Bon.
Oui.
Donc, il fallait que je choisisse un nom. J'avais créé un personnage dans ma mythologie personnelle que j'avais intitulé Solers. Pourquoi ? Parce que c'est la traduction en latin du personnage qui a hanté toute mon existence. C'est tout simplement Ulysse, vous savez, l'homme aux mille ruses, aux mille détours, ingénieux à droite, etc. Polytropoi en grec, ça fait Solers en latin.
Polymétis aussi, mais vous n'aimiez pas la sonorité ?
Bah, non, je trouve que Solaire, c'est pas mal, ça fait Solus de Zèle avec Ars, tout entier Ars, etc. Bon, mais alors ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que j'ai un nom, un patronymique qui est plutôt, même trop brillant, je m'appelle Joyot avec un X, n'est-ce pas, ce qui a supposé pendant toute ma scolarité des lazis, ce joyau n'est pas une perle, ce joyau ne brille pas de tous ses feux aujourd'hui, un joyau, vous n'êtes pas vraiment un diamant, etc. etc.
Et joyaux, puis les slogans, joyaux au poteau.
Les joyaux au poteau. Parce que tout ça était très très agité et je vous ferai remarquer simplement qu'il y a beaucoup 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 de pseudonymes dans l'histoire de la littérature française, en général pour cacher un nom disgracieux. Moi j'ai fait le contraire, il vaut mieux s'appeler Voltaire Carouet, Molière que Poquelin, Sagan que Quarez, Duras que Donadieu, etc. etc. Ça ne l'arrête pas, il y a beaucoup 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 de Stendhal que Bell, etc. Donc en tout cas il vaut mieux s'appeler Solers que Joyaux parce que ça cache un petit peu, c'est trop brillant, donc je m'avance masqué, vous voyez, avec ce pseudo, voilà.
Voilà, le rusé. Dites-nous pourquoi il faut... forcément passer par l'enfance, par sa propre adolescence, pour essayer de se définir, pour essayer de se retrouver. La question, elle peut vous sembler banale, mais elle est passionnante lorsque vous prenez à bras-le-corps cette question et que vous critiquez notamment, alors c'est un débat qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques mois, très vif, quand l'immense écrivain... Que vous récusez d'ailleurs, pas un immense écrivain, un écrivain médiocre, immense. Gunter Grass.
Oui,
en tout cas,
l'écrivain qu'on a déclaré immense.
Prix Nobel de littérature.
De la société, oui.
Voilà, cet écrivain, donc, dans un livre qui est paru récemment en France, Pelure d'Oignon, décrivait son engagement de jeunesse dans la Waffen SS à
exact.
17 ans. Coup de théâtre, puisque c'était la grande conscience de la social-démocratie allemande depuis l'après-guerre. Et vous avez un rapport très dur à cette confession.
Exact.
Pourquoi
vous parliez de l'enfance et de l'adolescence, je crois que tout se joue là. En tout cas pour un artiste, un écrivain, l'écriture est un art, tout est là. Je vais pas me pesantir là-dessus. Tout se fait pendant l'enfance. Et d'ailleurs, le problème, c'est de savoir conserver ou pas cette enfance, dans l'inspiration et dans la sensation. Les adultes, en général, sont des enfants ratés, qui se vengent de ce ratage. Ils deviennent sinistres. Donc maintenant, l'adolescence, nous sommes là sur la question, disons les choses, du désir, de la sensualité, du rapport au monde sensible. Alors, évidemment, Gunther Le Grass nous dit tout à coup qu'il s'est engagé pour fuir sa famille dans les Waffen-SS à l'âge de 17 ans. Ça me fait rire ou ricaner.
Aucune indulgence.
Aucune indulgence, parce que c'est comme si moi, à 17 ans, au même âge,
j'avais
eu envie d'être parachutiste et tortureur en Algérie. Voilà, c'est tout.
Peu importe le
donc
contexte
on
historique.
Ça prouve l'hypocrisie gigantesque. Il faut aller au désir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a animé? Pourquoi avez-vous eu du désir pour un homme? Pour qui avez-vous bandé? Etc. etc. Ce sont vraiment les questions clés. Et voilà. Eh bien, grâce à bander pour les Waffen-SS.
Mais on ne peut pas faire abstraction non plus du contexte historique. Et pourtant, si. Et pourtant, si, vous dites, c'est une
moi,
question d'inclination de
vous.
Savez,
je suis un déserteur réfractaire. C'est-à-dire que je me suis toujours arrangé pour échapper aux ensembles contraignants, que ce soit la famille, l'école, l'armée. J'ai mis un certain temps à me faire renvoyer. Je suis réformé numéro 2 pour terrain schizoïde aigu après 2 mois de grève de la faim et sauvé par Malraux d'ailleurs d'une façon étrange parce que j'avais commencé une grève de la faim assez longue, c'est assez compliqué, on maigrit beaucoup puis on peut s'enfoncer dans la dépression. Malraux m'a fait libérer, je l'ai remercié, il m'a envoyé ce petit mot extraordinaire quand même de la part d'un ministre. C'est moi, monsieur, qui vous remercie d'avoir pu au moins une fois rendre l'univers moins bête. Vous voyez, ça prenait des proportions considérables, alors que je n'étais qu'une petite cellule dans un océan d'absurdité.
Mais c'est aussi une manière de définir votre identité. l'une de ces très nombreuses identités auxquelles vous tenez, auxquelles vous accrochez. Il faut renoncer à rien.
Je m'en tiens à une seule, c'est rester libre. Voilà. Donc pour ça, il y a des procédures selon les situations. Rester libre.
Et qu'est-ce qu'on fait des assignations d'identité qui viennent de l'extérieur? Votre livre est paru il y a quelques jours. Il y a déjà un très grand nombre d'articles qui vous ont été consacrés.
Oui.
La plupart élogieux, il faut le dire, même venant de critiques qui, a priori, auraient pu être plus sévères.
C'est contrasté, comme toujours. C'est ce qui m'arrive depuis que j'écris, que je publie des livres. Écrire est un bonheur. La publication, ou plutôt la poubellication, comme disait mon vieil ami Lacan, est toujours une épreuve. Et là, bon, en général, c'est rarement neutre. C'est ou plutôt pour, ou alors, de façon presque hystérique, négative, etc., avec des accusations diverses. Il y a une seule chose qu'on n'a jamais dite de moi, je crois, il faudrait vérifier, c'est que j'écrivais mal.
Non, ça, il faut le reconnaître. Un vrai roman ou le vrai Philippe Solers?
Eh bien, c'est ça un peu que ça veut dire, le vrai. Ça serait vraiment restreint. Un vrai roman, ça veut dire que, vous savez comment on dit, ma vie est un roman, est-ce que vous avez... Je crois que tout le monde...
Mais roman comme ma vie.
Oui, voilà. Ce qui est exigible, c'est de savoir un jour ou l'autre si on a eu une vie intéressante ou pas. Voilà. La vie de la plupart des écrivains n'est pas forcément intéressante. Vous citiez le mot de Sartre, n'est-ce pas? Il faut savoir vivre et écrire. Bon, la vie de Flaubert, vous savez, c'est pas extraordinairement... Celle de Sartre est plus contrastée. Les écrivains ont des vies bizarres. Bon, et est-ce que les écrivains d'aujourd'hui ont une vie vraiment intéressante? Alors qu'ils nous le disent.
Mais est-ce que c'est important, Philippe Solers, de connaître la vie des écrivains?
Mais bien entendu que c'est très important.
Mais non, ce sont les livres qui comptent.
Non. Les deux. Je crois pas. Ça encore, c'est la séparation. Il faut les livres qui comptent, ça serait déjà un point de vue universitaire. L'écrivain est mort, peu importe comment il a vécu. Nous étudions les textes à la loupe. Non, il faut les deux. Je trouve ça très intéressant de savoir comment les écrivains ont vécu, comment Stendhal a vécu.
Par exemple, vos auteurs fétiches, allez, on en prend deux, Homère et Shakespeare. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont de commun? On ne sait rien ou quasiment rien de leur vie. Homère, on ne sait même pas s'il a existé ou s'il a vraiment été l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée.
Mais oui, cher monsieur, mais à ce moment-là, les médias existaient très peu. Si nous aurions Homère à la radio, d'ailleurs.
N'ait pas existé au moment d'Homère.
C'est Homère qui vous parle en ce moment. Et quant à Shakespeare, évidemment, il n'y avait pas non plus les gazettes, etc. Mais en lisant bien, on sait que tous ces énormes personnages ont eu, et ça se sent à chaque ligne, des vies absolument passionnantes.
Travail aussi sur travail de lecteur que vous racontez dans ce livre. Une question: qui sait vraiment lire quoi, à quel moment et comment? Quand on parle de démocratiser le rapport à la lecture, il y avait ce discours très étonnant de François Fillon qui recevait tous les écrivains de la rentrée littéraire à Matignon. Il leur avouait qu'il n'avait pas lu un seul de leurs romans, mais qu'il était malgré tout un grand lecteur et que des lectures l'avaient structuré et qu'on était dans une civilisation du livre. Est-ce que c'est si vrai?
Oui, je trouve d'ailleurs étrange qu'un premier ministre à Matignon s'occupe de la rentrée littéraire, donne un cocktail à cette occasion et trouve le moyen de dire qu'il n'a rien lu de des gens qu'il a invités. Je trouve c'est un peu à l'image d'ailleurs du régime dans lequel nous vivons où vraiment tout est fait pour l'effet d'annonce, etc. Et puis alors le
vous étiez invité?
Non, mais j'étais invité, mais évidemment je ne suis pas allé, sans quoi j'aurais pas pu faire remarquer mon absence. Mais cela dit, ce qui est étonnant, c'est que le premier ministre a trouvé bon à ce moment-là de dire son amour. Il s'est mis en scène avec Chateaubriand. Bon,
c'était plutôt curieux.
Oui, ben il aurait dû s'emparer de mon livre, en faire l'apologie devant tous les gens qui étaient là. Ça aurait été plus moderne, plus actuel, plus énergiquement dans l'espace ouvert par le révolutionnaire Sarkozy, vous comprenez. Il faut quand même s'entendre.
La rupture.
Tout ça traîne. Mais oui, à la rupture avec Chateaubriand. Non, avec Solers, c'est tout.
Mais la rupture, vous l'avez faite vous-même, Philippe Solers, avec la grande époque de tel quel, de l'infini. Vous employez d'ailleurs même le terme. La rupture. Nicolas Sarkozy vous a tout piqué.
Absolument. Il nous pique tout, sauf une chose, et c'est là où nous sommes à l'inverse absolu, si je peux dire, c'est qu'il veut liquider tout ce qu'il y a eu d'intéressant dans ce pays, c'est-à-dire de libre.
Bon, bah écoutez, en tout cas, apparemment, ils n'y sont pas encore totalement parvenus. On vous retrouve dans un instant, Philippe Solaire, s'il est 8h05, et il est temps d'écouter religieusement la chronique d'Alain Gérard Slama. Bonjour Alain Gérard, ce matin, l'esprit français, c'est le titre.
Vous avez un bon coup d'œil, Ali, vous avez lu le titre sur mon papier qui était pourtant un peu dissimulé.
C'est l'habitude de copier en classe.
Parce que je n'en suis pas très sûr de ce titre, et pourtant... Les deux livres de Solaire sont une fête. Et en même temps, pour moi, ils incarnent l'esprit français.
Alors, les deux livres, Alain Gérard, vous interromps juste une seconde. Un vrai roman, et puis il y a aussi Guerre secrète qui paraît chez Carnet Nord, sur lequel on reviendra tout à l'heure.
Qui est aussi important que l'autre, à mon avis. Alors, bon, Solaire, ça a beau cultiver Homère, Sun Tse, Nietzsche, Heidegger, et avoir joué un rôle capital avec Tel quel, puis l'infini, dans la pénétration dans notre pays des littératures étrangères, il représente à mes yeux la quintessence de l'esprit français. Alors, j'en retrouve chez lui la plupart des composantes qui associent à la fois la forme classique et la pensée baroque. La phrase courte, la clarté de la prose, mais dans le même mouvement, l'art de se cacher, le larvatus prodeo du plus classique des penseurs, Descartes.
Traduction, Alain Gérard, j'avance trop tôt masqué. Pour parler latin.
J'avance masqué, mais nous sommes à France Culture et à De Novembre.
Vous savez pas, je suis comme une larve.
Oui, voilà.
Je ne suis pas une larve. Voilà. Non, larvatus prodeo, j'avance masqué. Surtout ne pas traduire par larve.
Bravo.
Surtout pas, d'ailleurs, j'ajoute, la pudeur, qui refuse de confondre l'être avec le paraître, fait partie, paradoxalement, de la force de votre écriture, mais aussi le goût du sanglant et du spectaculaire. Voyez la Phèdre de Racine. Hein. Le penchant aussi naturel et étudié de n'être jamais tout entier dans aucune de ses pensées. Le plaisir aussi naturel et étudié de n'être jamais tout entier dans aucune de ses pensées, le plaisir pris à décevoir, au sens stratégique du terme, autrement dit, à d'être jamais là où l'autre vous attend. Je ne suis pas sûr que Philippe Solaire s'en convienne, mais il y a du barès en lui. Le barès du culte du moi, pas celui de l'antidreyfusisme et du nationalisme pour Dieu, non. Le barès qui s'est voulu l'incarnation même de cet esprit français qui a marqué Gide et Aragon, au moins autant que Roger Liminier. L'écrivain qui ressent comme une agression le regard de l'autre, l'enfer c'est les autres. L'écrivain qui rejette les systèmes unificateurs, l'anti-Victor Cousin, le vrai, le beau, le bien, l'anti-Victor Hugo aussi sans doute, je suppose. L'écrivain Barrès qui se méfie de la passion d'expliquer et dont le style est imprégné du plaisir de surprendre. Je vais citer une phrase de Barrès qui pourrait être du Solaire, pardon. Je vous le dirai en confidence, mon ami, je n'aime plus guère à cette heure que les viandes grillées, vivement cuites et les déclamations un peu courtes. Le Barrès, enfin, qui fait l'éloge de la conscience, non pas schizophrène, c'est trop peu, mais polyphrène, et qui s'est morcelé, disait-il, en un grand nombre d'âmes. Aucune n'est une âme de défiance, elle se donne à tous les sentiments qui les traversent, les unes vont à l'église, les autres au mauvais lieu. Ça, j'ai cité Barrès. Alors, Solaire se dirait sans détour au bordel, mais cela ne suffit pas, à mes yeux, du moins, à atténuer la force de ces analogies jusqu'à la toute dernière, qui est chez l'un comme chez l'autre l'obsession de l'unité, je dirais plutôt la recherche obstinée d'une clé harmonique de son pluralisme intérieur. J'ai pris d'ailleurs, disait Barrès, cette garantie que mes diverses âmes ne se connaissent qu'en moi. N'est-ce pas là un peu le problème, le programme des mémoires, intitulé non pas roman vrai, mais vrai roman, ce qui dit tout sur le souci de recomposer, de reconstruire derrière les vérités secondes de nos vies, une vérité première, maîtrisée de part en part et de bout en bout. Alors, voilà pourquoi, aimant ce Solaire-là, qui est une fête, je suis dérouté quand il se situe d'un seul côté, le côté Dionysos, qui, à mon sens, l'engage dans des polémiques d'une violence surprenante. Il y a une France moisie, mais la France n'est pas moisie, c'est ainsi que je vois les choses. Et je pense que Dionysos est un dieu fécond pour l'imaginaire, un dieu du reste de la fécondité, vénéré en Grèce, dans les campagnes. Mais je ne souhaite pas qu'on l'invoque comme un modèle autrement que dans ce domaine-là. Dionysos est un dieu fécond, c'est vrai, mais c'est aussi un dieu sans pitié.
C'était la chronique d'Alain Gérard Slama. Philippe Solaire, vous embrassez virtuellement Alain Gérard pour ce qu'il vient de dire. Et pourtant, lorsqu'il vous dit qu'il y a du barès en vous, Alors, pour de bonnes raisons et non pas pour ce qu'on pourrait... Le culte du moi, juste là-dessus, avant de retrouver les informations, vous aurez l'occasion de débattre avec Alain Gérard ensuite.
Slama, il est là, il est charmant, je l'adore. Mais en fait, il essaye de me récupérer pour sa chapelle.
C'est pas ma chapelle, Barès.
C'est une chapelle. C'est une chapelle. Bon, en tout cas, il y a eu un procès Barès, et j'aurais été de ce côté-là à l'époque. C'est quand même les surréalistes qui se sont débarrassés de cette influence qui pèse, qui finit en Lorraine quand même, le culte du sol, etc. C'est pas du tout mon genre. Sur Dionysos, en revanche, là, Slama, nous allons en discuter en dehors de l'émission. Je vous assure que ce dieu du vin, et quand on vient de Bordeaux, on sait de quoi on parle, est absolument nécessaire à l'énergie française. C'est du sang. Non, vive Dionysos, je l'aurais dit à France Culture.
Et vous allez en parler à ce même micro. Et de l'Italie à la France, on retrouve notre invité, un vénitien de Bordeaux, Philippe Solers. Il publie un vrai roman, des mémoires qui paraissent chez Plomb. C'est la saison des prix littéraires, Philippe Solers, ça vous a pas échappé. Lundi, on connaîtra le lauréat du Goncourt, celui du Renaudot également. Allez, vous qui savez tout sur les intrigues et les coulisses du métier, qui aura le prix Goncourt?
Écoutez, d'après les informations des services concernés, les accords sont passés entre différentes trésoreries d'éditeurs. Et là, nous sommes dans le cas classique où je te donne ci et moi je te donne ça. L'opération semble assurée, donc vous aurez en principe, sauf surprise, mais il n'y a jamais beaucoup de surprises.
Quelle langue de
Olivier,
bois pire que
c'est
la politique.
Ah bah oui, c'est la langue de bois. Bah écoutez, dans les services, si on ne parle pas la langue de bois...
Olivier, c'est Olivier Adam.
Oui, c'est ça. Vous avez la même info. Voilà.
Absolument pas, mais en tout cas, donc résultat
voilà.
Lundi.
Donner Renaudot, voilà, c'est ça. Voilà.
Donner pour le Renaudot,
et
pour un roi
Fotorino,
sans
et Fotorino féminin, en principe, et Vincent Delcroix, d'ailleurs un bon livre, pris Médicis, voilà. Et j'espère, prix décembre, c'est un petit prix dans lequel je m'agite un peu, pour Yannick Enel, livre merveilleux que je conseille absolument à tous les auditeurs de France Culture, mais ils doivent déjà l'avoir.
Le Cercle, c'est il cercle, était cercle, dans cercle, la cercle.
Lisez
liste
cercle.
France
le
Culture
meilleur,
de la rentrée.
Le meilleur livre de la rentrée, bien sûr.
Ces prix littéraires, ils vont récompenser de bons romans.
Écoutez, franchement, je crois pas qu'il y ait des chefs-d'œuvre là. C'est pas le tsunami, par exemple, de l'année dernière avec les grosses bienveillantes de Littel, qui est quand même un livre. Bon, voilà, c'est une petite année, allez.
Un petite année. Bon, description.